Les nuits de France Culture.
Alain Chapelle n'a qu'une obsession, rendre sa cuisine meilleure. Il ne fait pas partie de ces chefs médiatiques qui sortent un nouveau livre tous les 6 mois et que l'on voit plusieurs fois par an à la télévision. Il a, en tout et pour tout, sorti un seul livre de recettes en 2009, 3 ans avant sa mort. S'il n'est pas bien connu du grand public, il est en revanche une légende dans le milieu de la gastronomie, obtenant en 1973 3 étoiles au guide Michelin et formant de nombreux chefs, dont le célébrissime Alain Ducasse. C'est donc un véritable homme de cuisine, passionné et sans distraction, qui se livre au micro de Stéphane Delie-Georges dans ce numéro de l'Esprit de Perfection. Importance primordiale du produit, goût de la simplicité, Alain Chapelle révèle les lignes directrices d'une cuisine sans concession, dans cette émission diffusée pour la première fois le 26 mai 1985 et réalisée par Maurice Audran.
L'esprit de perfection.
L'esprit de perfection. Une émission de Stéphane Delie-Georges. Réalisation Maurice Audran.
C'est à l'orée des Dombes qu'est installé Alain Chapelle. Les Dombes, ce pays de marais et d'étangs gris, ce pays d'envol de troupes d'oiseaux aquatiques. C'est là, à Mionnet, que nous avons fait notre dernière et 4e station. Cette fois, le perfectionniste est cuisinier. Pourtant, nous allons le saisir par un détail qui n'est pas de cuisine. Alain Chapelle, tous les jours, s'occupe des fleurs. Chaque jour, il compose des bouquets qui viennent orner les tables de la grande salle. Il a, pour ses ensembles, un soin jaloux qu'il ne laisse à personne. De 3 fleurs ou de 100, il organise ses petits spectacles de l'œil. Lorsque tout est en place, Chapelle, alors, ouvre sa salle. C'est la fin de l'itinéraire de minutie qui a commencé au choix des produits de la terre, des produits de la pêche ou des produits de l'élevage. Il dit « Nous sommes gagnés depuis longtemps par une maladie, la perfectionnite. Cette maladie est tellement une habitude qu'il ne la remarque même plus. En fait, dans l'art de la cuisine, il est nécessaire même que l'extrême vigilance devienne une habitude. Mais quel peut être le bonheur d'être grand cuisinier ?
Le cuisinier aime beaucoup donner. Il faut aimer donner pour être cuisinier. Si le message est passé, si vous sentez le bonheur, pas la satisfaction, le bien-être, mais le bonheur, alors c'est OK, vous avez bien fait votre truc. Je crois que c'est un bonheur simple, finalement, primitif même, mais bien.
Vous êtes donc maniaque pour les gens qui œuvrent avec vous. Mais êtes-vous aussi maniaque pour tous vos commensaux ?
Oui. Je commence à m'énerver un petit peu lorsque, sous prétexte de facilité ou d'un peu de snobisme, là je parle du laisser-aller vestimentaire, hein, certaines personnes viennent un peu habillées un peu facilement, je dirais, pour faire peut-être chic d'ailleurs, mais... Je supporte parce que ça fait partie, parce que c'est partie prenante du bonheur qu'ils vont avoir. S'ils sont bien dans leur peau comme ça, ils recevront sans doute mieux le message de la table. Ça me gêne un petit peu parce que c'est peut-être énerver certaines personnes qui peuvent être autour, etc., et qui, elles, ont fait la démarche inverse. Bon, ça fait partie du bien-être des gens, et oui. Alors,
Laisser aller en cuisine, c'est peut-être différent, là.
Le laisser aller en cuisine, pas du tout, c'est pas possible, parce que la cuisine, comme toutes les professions, si on veut les faire au plus profond, eh bien, ça passe par les méticulosités, ça passe par une tension. Le travail dans une cuisine et qui se fait pendant 2 heures ou 3 heures et finalement assez rapidement, l'esprit n'a pas à être occupé par autre chose et que moi je vois assez une cuisine comme un bloc opératoire, un petit peu au moment de l'opération, c'est-à-dire où les choses sont comme ça, elles coulent de source, ça se fait normalement, les messages passent mais pas dans le brouhaha, etc., etc. Alors est-ce que ça vient de mon caractère ou de mon tempérament? Je ne pourrais pas bien travailler en écoutant la radio.
Pas de distraction.
Pas de distraction.
Il faut être concentré.
Voilà.
La perfection en cuisine, ça commence où?
À votre avis? Je crois que les perfections, c'est l'exigence. Ça commence par les achats du produit, c'est-à-dire choisir au moment idoine, peut-être la pomme de terre qui sera la meilleure, et puis après, très bien l'éplucher. Pourquoi lui laisser un œil ou deux? Non, très bien l'éplucher. Et puis après, la laver correctement, elle la sécher, et si on doit la couper en rondelles, que les rondelles soient le plus régulières possible, etc., etc. C'est un premier maillon de la chaîne, et puis le produit qui sera marié avec ses pommes de terre, si c'est un poulet, idem, et le flambage le mieux possible, et les vider et couper les pattes le mieux possible aussi, et le brider, idem, c'est-à-dire toutes les opérations, essayer de les faire le plus sérieusement et telles qu'elles doivent être faites. Rien n'est plus facile que faire un rôti, mais faut-il encore que la chaleur du four soit parfaite et arrosée, et vous avez le résultat parfait d'une belle couleur blonde et d'une chair moelleuse, etc. Si vous laissez aller un petit peu les choses, eh bien, après, il y a tous les risques du moyen, du un peu moins bien, etc.
Vous choisissez vos producteurs, ceux qui vous fournissent les produits de base pour les légumes, par exemple?
Oui. Pratiquement tous, hein, y compris le meunier pour la farine, y compris, je dirais même, les pêcheurs en Bretagne ou dans le Midi, sont des gens connus. J'ai compris ça il y a, je ne sais pas, quelques années, y compris chez les gens qui font très bien leur métier, et il y en a quand même beaucoup, il y a toujours un petit plus. Le viticulteur, lui, c'est pertinemment, même le type qui fait le mieux, il a un coin de vigne protégé parce que ce sont des vieux cépages, parce que c'est le meilleur ensoleillement, c'est le meilleur climat, etc., etc. Et sur 10 ou 15 pièces ou feuillettes de vin, le gars lui-même sait quelle est celle qui est au top. Il y a une petite différence. S'il y a des contacts d'amitié, d'échanges réciproques, c'est aussi là peut-être un choix de ses amitiés, et faire confiance à l'homme, c'est-à-dire donc très important de connaître chacun des personnages avec lesquels on va œuvrer en permanence, et puis connaître le pourquoi de leur travail, etc.
Ça vous est arrivé de rompre avec justement quelqu'un qui vous fournissait un produit parce que ça correspondait plus à vos exigences?
Oui, avec les hommes difficilement, parce que il y a toujours moyen de repositionner les choses. Un type qui a très bien fait peut avoir un petit passage à vide, peut avoir un petit laisser-aller, mais si on a des rapports de sympathie ou d'amitié, les choses reviendront toujours en place. Le gars qui a bien fait fera bien. C'est plus difficile certaines fois parce que des affaires peuvent prendre des volumes plus importants. Je pense à une laiterie avec laquelle nous avions des contacts extraordinaires, et je commence à me poser des questions. Et à partir de là, ça sera sans doute une autre fourniture. D'ici peu, je suis en train de draguer et de trouver, essayer de trouver les gens qui feront le mieux.
Pour le lait, là?
Oui, pour le lait, pour la crème. Pas le lait, mais la crème, les beurres, etc. Parce que je crois qu'ils sont en train de choisir une autre voie et ça m'énerve.
Qu'est-ce qu'il est très délicat de maîtriser quand on fait la cuisine? Est-ce qu'il faut une attention extrême, une attention particulière pour que la qualité des sauces soit maintenue?
Ben, il est déjà important de maîtriser son équipe, hein, puisque l'on travaille en groupe. Il y a le message d'un capitaine qui doit passer, c'est-à-dire le don de soi, la défense un petit peu. C'est peut-être le numéro un. Et puis quand ça existe, bon, il y a une pulsion différente, hein, que l'on sent très bien. Et puis après, non, ben après, je crois que c'est le métier. Et quelquefois, l'on peut être au top niveau, d'autres fois faire un peu moins bien. Mais parce que ça, c'est logique et c'est humain. On porte en soi, à certains moments, des trucs qui peuvent être peut-être géniaux. Et puis d'autres fois, beaucoup plus modeste.
Quel buffet où tout était vraiment parfait, je demeure stupéfait et je m'attardais devant ce joli festin.
Si je vous demandais de penser à un plat parfait, de chez vous par exemple ou d'ailleurs, vous penseriez à quoi? Un plat parfait?
Très difficile, je vais parler d'un poulet rôti, ça peut être un plat parfait si c'est un chapon de la meilleure époque, fait peut-être chez Yves sur un feu de bois, mais si le bois est d'arbres fruitiers, je ne sais pas. Ça peut être aussi le saucisson, ça peut être la salade, et ça peut être des pommes nouvelles d'altitude au mois de juillet ou au mois d'août, des pommes de terre de 1000 mètres ou de 1200 mètres, des quenelles, bon, ça peut être quelque chose. Alors je crois que ça, c'est le désir du moment, et y réfléchir comme ça, c'est beaucoup plus difficile.
Autrement, vous êtes connu pour faire des plats subtils, en tout cas pour avoir une cuisine subtile. Là, vous avez évoqué des choses simples au bon moment, dans leur opportunité.
Oui, oui.
Mais dans les choses très subtiles, alors, à quoi vous penseriez comme plat parfait? Parce que je suppose qu'il y a des nuances difficiles à obtenir aussi.
Oui, mais je pense que actuellement, nous faisons quelque chose qui me plaît de plus en plus. Les crustacés sont pour beaucoup dans une très bonne forme. Et je crois que la cuisine sait capter les odeurs, hein. Et on fait des tronçons de grosses langoustes. On coupe la queue de la langouste à cru et on les poêle dans leur carapace. On obtient des odeurs assez formidables. Et mariées avec des pommes de terre, un peu bêtes, on dirait des pommes sautées, on dirait des chips au beurre, si vous voulez. Et puis, moi, je crois que c'est un mariage de subtilité. Il faut apprendre à aimer un plat, finalement. Hein.
C'est pas immédiat.
C'est peut-être pas immédiat. Quelquefois, il peut y avoir le coup de foudre, et puis...
Parfois, l'apprentissage du palais.
Quelquefois, voilà, c'est ça.
Alors, une maison comme la vôtre, ça commence bien évidemment à la cuisine, avec toutes les attentions qu'il faut. Mais je crois que lorsqu'on a le souci de perfection, on va l'étendre. Votre vigilance, elle porte sur tout.
Nous avons la chance de nous réaliser à travers, finalement, notre cadre de vie journalier. Et je me réaliserai totalement en cuisine dans les plats que je ferai ce soir. J'aiderai l'équipe à se réaliser avec moi ce soir, si moi je me sens bien dans mon truc. Donc c'est un tout. Hein.
Vous avez une grande attention, c'est vous qui faites les bouquets, vous avez une grande attention pour les fleurs. C'est vous qui composez les bouquets pour les tables.
Oui, oui, oui.
Là encore, une vigilance précise, il faut que les bouquets soient différents. Vous faites attention à ce qu'ils aient
Oui, mais ça, c'est une éthique de vie un petit peu. C'est-à-dire que nous avons une maison qui est située à la campagne. Son décor est assez rigoriste, dans la salle à manger du moins. Et ben je crois que c'est un petit peu une fenêtre ouverte de la campagne dans la salle à manger. Et que il est d'importance. C'est la petite patte. Et puis moi, ça me permet de passer 2 heures sans trop gamberger.
Lorsque vous faites ces bouquets.
Voilà, vivre autre chose.
Monsieur Jourdain a raison, madame. Et je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Si d'amis s'en étaient mêlés, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition. Et il ne manquerait pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait et de vous faire tomber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux, de vous parler d'un pain de rive à biseau doré, relevé de croûte partout, croquant tendrement sous la dent.
Par contre, la création passe par les mêmes exigences de perfectionnite, mais c'est quelquefois des extrapolations de découvertes. Il y a quelques années, j'avais été justement pour voir, chercher les meilleurs fournisseurs dans les ports bretons, etc. Et j'avais été emmené par un monsieur qui est peut-être le champion de la langouste et du homard en France. J'avais été emmené à l'île de Sein. Et j'ai eu des trucs formidables. Vu des gens qui sont des cascadeurs, finalement. Les bars du Rat de Sein sont des poissons d'une qualité exceptionnelle. Les bars foisonnent dans les bars BAR foisonnent dans les bars BA2RE rocheuses sous la flotte là, et les types pilotent leur bateau en ayant derrière 4 ou 5 lignes et en venant effleurer les rochers pour bon, et à parler avec des gens comme ça, vous comprenez le mieux, ils ont réellement la sensibilité du poisson qu'ils pêchent. La partie de la matinée s'était terminée dans un petit bistrot de l'île de Sein, et où j'avais parlé avec ces pêcheurs. Et les gars m'avaient expliqué que quand ils partent en campagne de pêche, ça dure pas longtemps, mais 15 jours, de tout temps, ils partent avec les oignons, l'ail, du sel marin, des pommes de terre qui sont pommes de terre d'un sol pauvre, où il n'y a pas d'engrais, où ne serait que le varech, si vous voulez. Et puis, quand ils sont au large, le cuisinier a préparé un ragoût avec des pommes de terre, cet ail, l'oignon, tout ça. Et si la pêche est très très bonne, bon, ben on met 10 kilos de lieux ou de colin dedans. Si elle est moins bonne, on met 5 kilos, etc. C'est la tradition noble de la nourriture, hein. Et à partir de là, on avait extrapolé et on avait fait un plat de homard et de pommes de terre que l'on a affiné, que l'on a bon. Mais finalement, il y a des attaches à quelque chose. Donc il n'y a pas d'invention. Je pense à une autre chose. Il y a quelques années, à l'automne, dans notre région, des pigeons ramiers tant et plus. Parce qu'il y avait eu beaucoup d'eau, c'était bien même début d'hiver, et les maïs n'avaient pas été ramassés. Bon, les pigeons, il y en avait, et on m'en apportait. Les pigeons ramiers, vous avez une chance sur 3 qu'ils soient durs. Bon, comment les cuire? On avait fait des pot-au-feu. Mais on avait 10, 15, 20 litres de bouillon, et au fur et à mesure qu'on pochait un pigeon dedans, on est arrivé à la fin à se retrouver avec 2 litres de bouillon qui s'était totalement clarifié, totalement solidifié naturellement, et on avait mis au point un plat. La pensée, si vous voulez, a été finalement beaucoup copiée dans la cuisine française. Maintenant, vous voyez des gelées d'écrevisse, des gelées de ci, des gelées de là. Mais je crois que ça, c'était naturellement. Et c'était devenu une gelée de pigeonneaux, parce que quand j'ai goûté le lendemain matin, froid dans le frigo, une cuillère de choses comme ça, c'était tellement génial que... Je dis bon, et mes deux cuillères, c'était écœurant, parce qu'on avait mis un peu d'anis étoilé. Donc pour qu'on puisse avoir envie de goûter une deuxième cuillère ou une troisième, il fallait amener des petites choses différentes, un peu d'acidité, un peu de mâche, un peu bon... Et je ne crois pas non plus que ce soit une découverte, parce que dans les siècles précédents, un gars un jour a dû sûrement avoir pléthore de pigeons ramiers ou de poissons ou de je ne sais pas, et avait sans doute fait aussi une gelée fabuleuse. Alors ce qui est grave, c'est que l'on soit obligé, amené à redécouvrir des choses, parce que le style de vie étant un peu différent, on va peut-être au plus facile. Mais ce sont sans doute des choses qui avaient été vues, revues et corrigées, hein, déjà.
Il y a la même chose pour certains desserts. Il y a des desserts qui sont venus comme ça par opportunité, avec un produit qui s'est présenté ou...
Oui, sans doute, oui. Peut-être le chocolat, peut-être. Mais ça, c'est plus... Je ne pense pas que ce soit naturel. C'est plus au niveau de la réflexion, là. Alors là, ce serait peut-être... Créer pour créer, c'est-à-dire se casser la tête pour essayer d'amener quelque chose d'inédit et quelque chose qui attise un peu plus la gourmandise, quoi, hein.
Le repas pourrait être soutenu d'un vin à sève veloutée, armé d'un verre qui n'est point trop commandant, d'un carré de mouton de Percy, d'une longe de veau de rivière, longue comme cela, blanche, délicate, et qui, sous les dents, est une vraie pâte d'amande, de perdrix relevée d'un fumet surprenant, et, pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé soutenue d'un jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux et couronné d'oignons blancs mariés avec la chicorée.
Toute la cuisine française a-t-elle un souci de perfection ?
Pas toute la cuisine, parce que nous n'aurions pas de fast-food. Hein. Nous avions, dans une ville comme Lyon, sans doute les meilleurs des fast-food français, avec les bistrots qui pouvaient faire dans une baguette de pain avec le meilleur beurre et le meilleur saucisson ou jambon, le fast-food à la française. À partir du moment où on a laissé échapper ça et qu'on a accepté, ou qu'on, sous prétexte de business, on pense que on perd un peu nos traditions, etc. Donc je pense pas que ça peut être toute la cuisine qui a une réflexion de perfectionniste ou de plus sérieux dans son métier, essayer de mettre la barre de ses exigences finalement assez haute. Mais je crois que une bonne partie des cuisiniers sont des perfectionnistes.
Quel a été votre maître en perfection ?
Je crois qu'on porte en soi des exigences. Hein. Je disais l'autre jour qu'il faut être emmerdeur un petit peu pour être perfectionniste.
J'ai vérifié.
J'ai eu la chance d'avoir un maître d'apprentissage qui était un artisan extraordinaire et qui était très très méthodique et très très appliqué. Sérieux, c'était une autre époque. Il faisait bien son métier parce que il fallait bien faire son métier. Je pense que le perfectionniste est un peu plus emmerdant. Si moi je passe autour d'une table et qu'une chaise est mal rangée, ça me fait quelque chose, donc, etc., etc. Donc j'ai en cuisine un ou deux garçons, mais surtout un qui n'est pas dans la position flèche de l'organigramme de la cuisine actuelle, qui est dans un deuxième groupe de commis, mais chaque fois que je le vois travailler, j'ai un petit sourire de satisfaction parce qu'il est extraordinairement appliqué. Et ça commence par ça, hein, je crois.
Hein ? Il vous a jamais fait de critique ?
Non, je vous parlais d'un bloc chirurgical. Alors, si on critique le chirurgien au moment où il est en train d'ouvrir le ventre, il y a quelque chose qui va plus, là.
Vous remarquiez l'autre jour, dans notre discussion, que lorsqu'on veut faire tout à fait parfait, lorsqu'on veut que les choses soient
absolument parfaite, il était bien qu'il y ait parfois un petit accident. Il fallait cette petite différence.
Bien sûr, c'est là. Et surtout dans une profession comme celle-là, parce que c'est réellement le reflet de l'image de la vie et que les choses ne peuvent aller au plus haut que si un jour il y a eu des creux de vague pour pouvoir les repositionner. Et en même temps, dans le creux de vague, on peut sentir une sincérité qui fait mieux apprécier une part de la perfection d'une œuvre. Mais dans la même œuvre, il peut y avoir le petit truc qui a moins bien passé. Et s'il est discernable par le convive ou par le client qui va... J'aime pas bien le mot client, mais enfin, c'est difficile à trouver autre chose.
L'amateur qui vient vous voir.
Oui, l'amateur qui vient nous voir. Je pense que dans ce petit creux de vague, il va savoir déceler, malgré tout, la sincérité du message. Et je crois que c'est important parce que c'est un petit peu une page de vie, hein, comme ça.
Est-ce que vous pourriez citer l'exemple de la perfection en cuisine ? Historiquement, est-ce que vous avez un exemple ?
Oui, chez les gens de talent, elle existe. Mais je crois que si la perfection totale d'une maison a réellement existé, c'était peut-être à Vienne, chez M. Poin, autour des années 50 ou 55, où le message était total. C'est-à-dire que la clientèle, elle aussi, mettait très très haut la barre de ses exigences. C'était presque une entrée en religion, hein. On parlait beaucoup moins de notre profession. Donc la démarche d'aller à Vienne ou d'aller dans des maisons similaires, c'était quelque chose de très important. Tout y était. Alors, les contingences étaient peut-être plus faciles avec les rapports, avec la clientèle. Je pense qu'actuellement, notre profession, on en a beaucoup parlé. Et alors, il y a des tas de gens qui viennent à la découverte. Et venant à la découverte, ils seront réceptifs un jour, mais peut-être pas dans le jour présent. Et puis, il y a aussi les contingences de la perfection sous toutes ses sortes. Et dans des maisons comme les nôtres, nous sommes 40, 50 personnes. Et il faut que l'exigence du plongeur qui a lavé l'assiette soit identique à celle du deuxième commis cuisinier qui a épluché la pomme de terre. Et que l'exigence du dernier des commis de la salle, pour la propreté de ses ongles, je sais pas quoi, les choses les plus idiotes, les plus petites, soient cernées. Et là, c'était le cas. Je crois qu'à tous les niveaux, c'était pratiquement une perfection. Quelqu'un rentrait pour accéder à l'entrée à la salle à manger, il fallait pendant une trentaine de mètres marcher sur le gore du jardin. Bon, il y avait toujours quelqu'un qui était en train de donner un coup de râteau sur le gore. C'était assez formidable. Hein. Moi, j'ai la maladie de ramasser les feuilles mortes. On a un saule pleureur, c'est plus difficile. Hein. Mais pour ça, on a un aspirateur maintenant, d'ailleurs. Mais je me souviens, et c'est peut-être là que ça m'a pris, je sais pas, chez Point, il n'y avait jamais une feuille morte par terre. Jamais. La perfectionnite poussée au pur niveau.
Là, je peux citer un exemple, en tout cas, de votre perfectionnite, parce que vous avez un petit livre pour les vins, une sorte de petit carnet noir, qui a inscrit sur son étiquette « Grande bouteille de derrière les fagots », Alain Chapelle, et vous m'avez dit que vous l'aviez commandé à quelqu'un qui était calligraphe. Vous avez soigné ce détail.
Bien sûr.
Les choses sont écrites avec une plume, peut-être une plume sergent-major.
Oui, peut-être, oui.
Pour faire les pleins et les déliés.
Oui, bien sûr.
Là encore, il faut le souci du détail, là encore.
Oui, mais je crois que il est important d'essayer d'aller au fond des choses pour que les messages passent. Et que si il n'y avait qu'une personne sur 100 qui devait comprendre ça, qui devait comprendre la démarche que nous avons eue, ça vaut la peine. Hein ?
On a goûté tous les sodas, les hamburgers from USA, mais ces produits d'importation n'ont pas changé nos opinions. Vin rouge et camembert, c'est ce que l'on préfère. Vin rouge et camembert, ça nous met la tête à l'envers. Vin rouge et camembert, nous on s'envoie en l'air. Une tartine et un verre, c'est vraiment tout notre univers.
À
Lyon, je crois que pour la grande cuisine, tout commence par ce que l'on appelle les mères. Mais ces chefs cuisinières, ne sont-elles pas à l'origine de toute cette grande gastronomie lyonnaise ?
C'est le message de la tradition de la cuisine lyonnaise, le pourquoi des exigences et le pourquoi aussi que la cuisine lyonnaise est peut-être le fief du bien manger. C'était l'époque des riches soyeux lyonnais qui, eux, avaient la culture, avaient l'argent, avaient dans les régions limitrophes de Lyon le positionnement immobilier. Ils avaient le petit château, la belle maison, etc. et avaient choisi une jeune fille ou une jeune femme qui était la cuisinière du château, qui est devenue rapidement la grand-mère, la mamie, la nurse des enfants, donc qui avait l'âme pour la famille. Et puis, en même temps, puisqu'il y avait une même respiration, je crois que les riches bourgeois faisaient passer le message de la qualité. Alors ils avaient les exigences de qualité parce qu'ils avaient la culture de la table, puisqu'ils étaient des hobereaux de province, donc ils connaissaient parfaitement la qualité du gibier, de la salade. À une époque où l'on parle d'odeur, lorsque l'on parle de vin, maintenant on parle d'odeur. Et c'est très bien, à une époque où quelquefois les vins n'ont pas toujours leurs vraies odeurs. Je crois qu'à cette époque-là, la senteur des choses était vraiment présente de partout. Actuellement, notre recherche, je pense que la recherche numéro un de la qualité des produits, ça doit passer par ça, et la qualité de la cuisine aussi, c'est d'abord les odeurs. Et ces grands patrons lyonnais, qui avaient avec eux ces jeunes cuisinières qui étaient devenues des femmes, qui étaient rentrées dans la famille, etc., un jour sont devenues des restauratrices, sont devenues les cuisinières les mères lyonnaises, et leurs premiers clients étaient leurs ex-patrons. Donc ils ne se gênaient pas du tout avec leurs ex-cuisinières. Et comme ils avaient les connaissances de la qualité, ils mettaient la barre de leurs exigences assez haut, et je crois que pour pouvoir exister en tant que cuisinière ou cuisinier à Lyon, il fallait réellement se défoncer et faire le mieux. Et il y a eu plusieurs générations de gens qui ont eu en eux, comme ça, la qualité, réellement, la culture de la table.
Si, à brûle pour point, je vous demandais de m'apprendre une recette simple, puisque je ne suis pas spécialiste, pour essayer de la faire bien, vous m'apprendriez quelle recette ?
Peut-être faire une très bonne salade. Essayer de comprendre à travers une sauce différente que si la salade est très très fraîche, on peut la manger sans sauce finalement. Et qu'à partir de là, il ne faut surtout pas l'abîmer en mettant une sauce trop forte. Ça ne peut être que par exemple un jus de citron au fond du saladier, du poivre. Et puis, je ne sais pas, une cuillère de crème, pourquoi pas. Les premières laitues, simplement arrosées d'huile. Hein, que réellement la salade reste, ait le goût de ce qu'elle a, de ce qu'elle est. Et puis, si ça avait été les pissenlits, il aurait fallu que là, la sauce soit beaucoup plus forte, puissante, pour mettre en valeur une herbe qui avait toutes les chances d'être un peu dure. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit comprendre la cuisine.
Vous vous sentez un petit peu artiste ou vous vous sentez simplement artisan, sophistiqué, très développé ?
Beaucoup plus artisan, je crois, parce que le jugement que l'on peut avoir de notre œuvre se répète. Quel est le handicap ? Quelle est la seule chose qui m'énerve un petit peu dans ma profession ? C'est le bis repetitas. Il faut être très bon à midi, il faut être très bon le soir, il faut, etc., etc. Et avec chaque table qui vient et qui attend de vous sa propre vérité, et sur la même table, trois ou quatre ou deux personnes qui chacune a encore un jugement différent de ce qu'elle va recevoir. Alors, je ne crois pas qu'on puisse être considéré comme des artistes quand on est obligé, même après avoir travaillé sa technique très profondément, quand on est obligé de se remettre en question en permanence. midi et soir pour X et X et X personnes.
Vous avez tenu, Alain Chapelle, à être accompagné pour cette émission par la soprano Nella Anfuso, à la technique si singulière.
Qui a résolu de faire une chose est là, parfaite. Son œuvre est parfaite. Non seulement à l'en croire, mais au jugement de quiconque sait droitement ou croit savoir la pensée de l'auteur et son but. Si, par exemple, on voit une œuvre que je suppose n'être pas achevée, et si l'on sait que le but de l'auteur est d'édifier une maison, on dira que la maison est parfaite, et parfaite au contraire, sitôt qu'on l'avait rapportée au point d'achèvement que son auteur avait résolu de lui faire atteindre. Mais si l'on voit une œuvre sans avoir jamais vu rien de semblable, et qu'on ignore la pensée de l'artisan, certes, on ne pourra savoir si elle est parfaite ou imparfaite. Telle paraît être la première signification de ces vocables. L'éthique de Spinoza.
Vous aimez lire, Alain Chapelle ?
Oui, je ne lis pas suffisamment, mais j'aime.
Et vous aimez écouter la musique ?
Beaucoup, et j'écoute suffisamment la musique.
Et la peinture ?
Je suis partie prenante, mais je ne m'en occupe pas suffisamment.
Et là encore, vous avez, vous reconduisez ces exigences de perfection, ces grandes exigences. Ce qui vous intéresse, c'est les choses qui sont parfaitement ficelées, bien léchées ?
Pas forcément. Au niveau de la musique, oui, je crois que c'est une nécessité que ce soit bien ficelé. Mais la peinture, je crois que on peut la recevoir comme ça, sur un coup de cœur, et vous en prenez comme ça plein la gueule, et vous allez aimer, et après vous allez vous poser une question. Hier au soir, on a discuté avec le peintre sur un de ses tableaux. Je comprends parfaitement que cet homme défendait pied à pied son œuvre. Et moi, dans une partie du tableau, il y a une partie du tableau qui me choquait un petit peu. Et c'est ce qu'il y a de formidable. C'est peut-être la sincérité, justement, de l'œuvre qui éclatait là. Hein. Bien ficelé, oui, c'est nécessaire. Mais le fin du fin, quand on a la perfection technique des choses, elle ne doit plus apparaître. Elle est là, oui, c'est normal. C'est une chose logique. La sensibilité se porte sur le plus, sachant que la base technique de perfection est présente de toute façon.
Ça peut très bien s'entendre pour la cuisine. On maîtrise bien.
Bien évidemment.
Et il faut l'optique, la petite nuance supplémentaire.
Je ne crois pas que l'on doit voir en premier lieu la perfection technique de la chose.
C'est ça, le peintre, il s'applique longtemps. Une fois, il pose le tableau et après, des milliers de gens peuvent le voir. Alors vous, l'extrême qualité, elle se joue dans l'exigence ou dans la maîtrise pour arriver à maintenir la qualité.
La maîtrise technique et l'exigence permanente.
Parmi les arts, la cuisine en est un au plein sens du mot. Pas plus que la musique ne se contente d'assembler des sons, la peinture des couleurs, la littérature des mots, la cuisine ne se borne à juxtaposer des saveurs. Existe-t-il des maîtres en d'autres arts que celui-là, contraints de se remettre en question chaque jour? De tous les arts, la cuisine est aussi le plus désintéressée. L'œuvre disparaît aussitôt que créée. Extrait du rapport sur la promotion des arts culinaires de Jean Ferniaud pour les ministères de la Culture et de l'Agriculture, 1985.
Je l'ai le plus grave, l'ennemi de la perfection, c'est l'habitude. À lutter contre l'habitude des hommes, c'est pas facile, ça.
Et vous dites que vos collaborateurs ne vous quittent pas. Et vous dites que c'est difficile de vieillir.
Oui, entre guillemets. Parce que vieillir dans une maison ou vieillir dans la maison, c'est l'habitude. Et l'habitude ne génère pas des choses très fécondes. Hein.
Qu'est-ce qui vous fait souffrir dans votre profession? Avant qu'on parle du plaisir, qu'est-ce qui vous fait souffrir, Alain Chapelle? Une table de 18 personnes qui fait du bruit qu'est-ce qui vous ennuie?
Non, pas forcément, si elle fait du bruit sans trop incommoder tout le monde, s'il n'y a pas trop d'égoïsme, elle fait du bruit parce qu'elle est heureuse, donc elle a reçu un message. Hein. Non, ce qui me fait souffrir, ce sont peut-être lorsque les habitudes reviennent, les mauvaises habitudes reviennent, je sais pas, autour de certains collaborateurs, ça m'énerve. Ça. Puis on fait par habitude, sans aller plus loin, on se pose plus la question. Et c'est même pour des petites, c'est pour les plus petites choses où ça a le plus d'importance.
Et qu'est-ce qui vous fait plaisir alors? Dans le métier, strictement, au moment où les clients sont dans la salle,
si l'on
il y a quatre personnes qui sont
si
heureuses, là vous êtes content.
Un tour de salle. Mais pas un tour de salle parce qu'il faut faire un tour de salle parce que vous pensez que vous avez bien travaillé, que vous avez bien fait votre truc, et puis que vous voyez des mines réjouies, et que, pas forcément des compliments non plus, mais vous lisez dans les yeux des gens, et bon, vous savez que tout est ok, vous avez bien fait votre truc. C'est aussi pour ça que nous sommes des artisans.
Et parfois, il peut y avoir une faille, il peut y avoir comme un hiatus, une mauvaise humeur un matin, et vous auriez envie, je ne sais pas, de leur jeter un œuf au plat avec du vinaigre dessus.
Non, j'aurais envie de foutre le camp et puis d'attendre que ça passe.
Et autrement alors, qu'est-ce qui vous fait plaisir?
Au niveau strictement professionnel.
Un mot qui est sincère, qui dit « j'ai bien mangé chez vous ».
Oui, bien sûr, oui, mais c'est quelquefois plus qu'un mot, c'est... C'est un message, ça ne va pas dans des grands discours, mais vous sentez que réellement vous avez procuré un grand moment de plaisir. Et je crois bien que les cuisinières sont un peu les dernières grand-mères de notre époque.
Et il vous arrive d'avoir envie de mettre la main à la pâte d'un seul coup? Parce que à l'ordinaire, vous coordonnez, vous commandez, vous regardez, vous supervisez.
Oui. Oui,
et d'un seul coup, vous avez envie.
D'orchestre, au bout d'un moment, on devient plus des chefs d'orchestre. Si vous vous mettez en cuisine, si vous faites œuvre de cuisiner, vous êtes obligé d'aller au fond des choses et le plat, le terminer, le fignoler. Le cuisinier qui a la responsabilité de l'équipe. Je ne crois pas qu'il soit frustré si, lors d'un service, lors d'un repas, il n'avait pas à mettre la main à la pâte. Parce que finalement, après, il y a les choses techniques qui sont là, et l'œil suffit, et le nez suffit pour corriger une trajectoire, finalement. Remettre une chose à sa juste place, c'est un travail de coordinateur, c'est le chien de berger qui remet le troupeau parfaitement au carré.
Il vous arrive de cuisiner pour d'autres maîtres perfectionnistes?
Oui, bien sûr, de professions différentes ou cuisiniers, bien sûr.
Oui.
8 fois sur 10, ils sont des amis et à partir de là, ça n'est plus un problème. L'on se comprend très bien.
est-il arrivé d'accepter des commandes extérieures, Alain Chapelle? Est-ce que vous êtes allé exercer loin de Nyonnais vos talents?
Oui, parce que quelquefois, il y a des demandes exceptionnelles. Et... Il n'y a pas très longtemps, l'an dernier, non, il y a 2 ans, j'avais été faire un dîner à New York pour 6 personnes, plus le couple invitant. Et le monsieur n'était absolument pas informé que ce soir-là, il y aurait un repas. Je crois bien qu'un jour, il était venu manger à la maison et qu'il avait dit à son épouse « Qu'est-ce que ce serait bien si Alain pouvait venir pour mes 50 ans ?» Alors elle, poum, 1 an avant, elle avait fait en sorte que nous avions fait le menu dans le plus parfait secret. Et puis, on avait choisi les vins, et les vins avaient voyagé 1 an avant. Et puis, je sais pas quelle raison, elle l'avait fait revenir à leur appartement à New York. Et, ok, ce soir, et lui, il est tombé sur 6 de 3 couples très très amis à eux qui étaient là. Je pose la question, pourquoi? Mais tu sais pas, il y a Alain qui est là, c'était 50 ans, etc. Et la surprise de cet homme, c'était quelque chose d'extraordinaire. Réellement, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris, on s'est dit bonjour, tout. Puis 10 minutes après, il a réalisé et il est venu en cuisine. Et ils ont eu une soirée assez formidable, mais après le repas, je crois bien que j'ai dû bavarder avec eux jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Et c'était quelque chose de formidable. Parce que c'était réellement le désir de c'était... les exigences avaient été très hautes à tous les niveaux.
Mais là, on était un petit peu dans l'aristocratie de l'argent, c'est très bien. Simplement.
Il y a eu aussi des déplacements pour des purs amateurs, pas très très fortunés. Mais je crois que le déplacement à New York, ça n'était pas uniquement l'argent, il y avait un plus. Il y a eu d'autres repas pour des monarques. Qui ont été faits parce que, bon, c'était mon business, mais les exigences étaient différentes, c'est même pas la peine d'en parler.
Sans démagogie aucune, est-ce que il vous est arrivé de recevoir un coup de téléphone ou quelqu'un qui dise « j'ai pas les moyens de me payer Chapelle, mais est-ce que je pourrais quand même venir goûter quelque chose ?»
Non, je crois pas que les gens parlent comme ça.
Ça n'arrive pas ?
Non, mais ils viennent. Quelquefois modestes, et ils viennent. Ils ont attendu longtemps. Ils ont fait l'effort.
Ils ont une petite cagnotte.
Je ne crois pas non plus qu'il y ait une démarche comme ça à faire maintenant, parce que tout compte fait, des maisons comme les nôtres ne sont pas tellement plus chères que le moyen de notre profession. Ça, c'était les discours d'il y a 30 ans, peut-être. Mais actuellement, je ne crois pas. C'est ce qui fait que des maisons comme les nôtres travaillent quand même pas mal, parce que les rapports qualité-prix sont à peu près là, et que les gens qui sont intéressés par la table savent qu'ils ont toutes les chances de se faire baiser la gueule 2 fois sur 3, dans quelque chose de moyen, et viendront plus facilement 1 fois... sur 4 ou 5 dans des maisons comme les nôtres, plutôt que d'aller s'encanailler et de ne pas en avoir pour leur plaisir.
Lorsqu'on discutait ensemble, vous remarquiez que rien n'était facile. Vous avez dit plusieurs fois même, rien n'est facile. Vous vous souvenez?
Oui, bien sûr.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, c'est une question que j'ai envie de poser au terme de nos entretiens avec d'autres perfectionnistes, est-ce qu'il n'y a pas un plaisir là-dedans? Rien n'est facile, c'est difficile, il faut souffrir. Mais est-ce que justement, ce n'est pas le plaisir du perfectionnisme?
Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que le type qui a comme objectif de courir le 5000 mètres en 13 minutes, ça doit pas être facile. Alors si le type il veut courir le 5000 mètres en 3 quarts d'heure ou en 2 heures, c'est déjà beaucoup plus facile. À quelle hauteur mettons sa barre? Et il y a des gens qui ont des exigences, hein, mais je crois pas que ce soit uniquement dans les professions manuelles. Il peut y avoir des journalistes, ils sont peut-être plus rares, mais il peut y avoir des journalistes qui mettent la barre de leurs exigences très très haut,
oui.
Y compris dans la qualité de leur écriture, et y compris dans le sérieux de leur documentation, de leur professionnalisme. Certains jardiniers peuvent être épouvantablement perfectionniste. Et puis d'autres laisseront aller la nature, etc., etc. Mais celui qui laissera aller la nature en la canalisant, celui-là est sûrement très, très perfectionniste.
Donc vous seriez tout à fait partisan pour qu'on écrive ensemble une apologie du perfectionnisme ?
Ah, totalement, totalement, totalement.
Chapelle, avez-vous encore le goût des repas gastronomiques ?
Pas forcément maintenant rester 2 heures, 3 heures à table. Parce que nous avons 2 petits mouflets et que la vie est différente et que... Bon, mais hier c'était pas mal, c'était à Roanne. Et à midi c'était toujours à Roanne, mais avec un gigot et les pommes boulangères. C'est la grand-mère qui a fait ça. Chez Trois Gros. Et bon, c'était les 27 ans du fils, et sur une tarte aux pommes qu'avait fait la grand-mère sont arrivées 27 bougies. Bon, et je crois que c'est ça, c'est aussi la sincérité. Hein. Ça peut être dans un bistrot des Dombes, c'est beaucoup plus difficile à trouver des bistrots sincères maintenant. C'est une des choses que l'on peut regretter. Mais ça passe par ça, ça passe peut-être par des poireaux à la vinaigrette, pourquoi pas.
Alain Chapelle, vous êtes gourmand ?
Oui, bien sûr, très gourmand, parce qu'autrement, sans gourmandise, je ne crois pas que l'on puisse avoir une jouissance dans des odeurs, dans ce qui est notre métier en permanence. La gourmandise n'est d'ailleurs pas un vilain défaut. Hein ? Y a eu toute une partie de génération qui avait reçu un des 7 péchés capitaux, la gourmandise, c'est pas vrai, hein ? Si quelquefois on se fait reprendre et que certains des amateurs qui viennent chez nous préfèrent être gourmets que gourmands, je crois que le gourmet est avant tout un gourmand repenti, un gourmand qui veut rester mince. Hein.
Le vrai gourmand n'est pas seulement celui qui a su éduquer, civiliser ses papilles et qui exerce infailliblement le sens du goût. Le vrai gourmand l'est aussi du toucher, de l'odorat, de l'ouïe, de la vue. Le gourmand qui ne gourmande que devant son assiette et son verre est un primaire de la gourmandise. Je veux que tu sois gourmand dans un jardin et au concert, chez le couturier et chez le tailleur, chez l'antiquaire, et devant le ciel du couchant, au musée, au théâtre. Je veux que tu sois gourmand dans la bibliothèque, je veux que tu sois gourmand près de la bien-aimée à qui tu as donné ton cœur, gourmand aussi devant la jolie fille qui passe, ou qui s'arrête une minute, une heure, une nuit. Exerce-toi à être gourmand dans tes rêves. Laisse la gourmandise t'ornementer l'imagination. Le point de départ de toute passion est peut-être une gourmandise non point forcément satisfaite, mais heureusement orientée.
cuisine, c'est aussi la sincérité, c'est l'image de la vie, etc. Le gars qui a une affaire, qui a son restaurant dans la province, dans un petit village, et puis le gars qui est à Paris, à New York, ou sur la Côte d'Azur, c'est total, les motivations sont différentes. Les gens viennent chez vous avec des motivations différentes. Vous respirez, la terre sous vos pieds. Des maisons comme celle-là doivent aussi avoir une âme d'aubergiste. Et là, la perfectionnite existe aussi à travers toutes les autres petites choses que l'on n'est pas forcément obligé de tenir dans un restaurant de ville, parce qu'il y a aussi une philosophie de vie, finalement.
Le coup parfait ne se produit pas au moment opportun parce que vous ne vous détachez pas de vous-même, dit le maître. L'art véritable est sans but, sans intention. Plus obstinément vous persévérez à vouloir apprendre à lâcher la flèche en vue d'atteindre sûrement un objectif, moins vous y réussirez, plus le but s'éloignera de vous. Ce qui pour vous est un obstacle, c'est votre volupté trop tendue vers une fin. Vous pensez que ce que vous ne faites pas pour vous-même ne se produira pas. Mais, objectai-je, n'avez-vous pas dit très souvent vous-même que le tir à l'arc n'était pas un passe-temps, un jeu sans but, mais une affaire de vie et de mort?
Notre chute philosophique est tirée du livre d'Erigel, Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Et là nous arrivons au terme de notre premier détour sur le continent des perfectionnistes, des maniaques de l'application. Ce détour passait par l'art du meuble, du chocolat, de l'architecture, de la cuisine enfin. Mais on se doute qu'il est d'autres détours, qui pourraient, eux, passer par la danse, par la peinture ou même par la grande couture. Il reste encore beaucoup de perfectionnistes cachés.
C'était L'Esprit de Perfection, une émission de Stéphane Dolly-Georges.
Les textes de Molière, de Spinoza et de Jean-Louis Vaudoyer étaient dits par Maurice Bray. Le mixage était de Monique Pratt.
Réalisation Maurice Audran.
C'était un numéro de L'Esprit de Perfection avec Alain Chapelle, diffusé pour la première fois le 26 mai 1985.